Si vous voulez, j'ai une migraine, proposa Irwin. Son ton modeste et serviable amena un sourire sur le visage creusé, vieilli par la barbe. Je ne vous fais pas peur ?
Non, Jimmy, en aucun cas. Je m'inquiète de vous voir comme ça. Je m'interroge sur ce que nous provoquons en vous. J'ai parfois des doutes sur la finalité de notre mission, mais je suis sûr, je suis toujours aussi sûr de vous.
Et si j'étais l'Antéchrist ? Irwin resta sans voix. Il avait le soleil dans les yeux et n'osait pas cligner, de peur que sa réaction fût mal interprétée.
Je suis né d'une image négative. Je proviens d'un linge de mort, un objet totalement impur, une relique maudite qu'on a essayé de cacher, de nier depuis toujours, et peut-être qu'on aurait dû la détruire.
Martelé d'un ton sourd et déterminé, les mots s'enfonçaient dans le crâne d'Irwin, accentuant sa douleur.
On m'a extrait du sang d'un sacrifice. Je viens de la partie restante du Christ, celle qui n'est pas ressuscitée, qui n'est pas montée vers Dieu. Quelles que soient ses intentions, mon cloneur a fait le jeu du diable. L'incendie du centre de recherche était voulu par la Providence. Mon amnésie était une bénédiction. Et puis vous êtes venu me rechercher. Qu'est-ce que je suis, Irwin ? Le cavalier de l'Apocalypse ? Celui qui s'avance, vêtu d'un manteau teint de sang ?
Vous en avez parlé à Monseigneur Givens ? Murmura Irwin qui, sur un terrain aussi délicat, préférait se défausser.
Que me répondrait-il ? Que je m'auto-blasphème ? Il doit mener à bien sa mission, comme vous tous ici. Une mission qui est de fournir un messie au Vatican, et si ce n'est pas le bon, vous vous en lavez les mains. Qu'êtes-vous en train de faire, Irwin ? D'élever l'anneau de Dieu ? Ou d'engraisser le veau d'or ? De former un sauveur ? Ou de perfectionner un monstre ?
Jimmy, je me suis livré à vous. J'étais sûr de bien faire et... Je ne sais plus qui est en moi. J'ai tué Jimmy Wood, et c'était peut-être le seul antidote.
La pirogue avait tourné sous l'effet du courant. Le soleil transfigurait ses traits, les larmes coulaient sur ses joues, se perdaient dans sa barbe. C'était la première fois qu'il ressemblait à Jésus. Irwin se dit que le secret de l'incarnation était là. C'est le doute qui fait l'homme, pas la foi. C'est l'inquiétude et non la croyance, l'épreuve du discernement bien plus que les convictions. Dieu est venu sur terre pour nous montrer que la foi n'est pas une question de certitude, mais d'amour. C'est parce qu'elle ne croyait pas à la résurrection annoncée que les trois femmes sont allées au tombeau pour parfaire l'embaumement, tenter de conserver un peu plus longtemps le corps de leur défunt. C'est par amour qu'elles ont découvert que le linceul était vide. Irwin était sûr d'une chose, au terme de sa vie, la croyance fige, l'élan du cœur est la seule vérité.
Je n'ai pas les moyens de vous répondre, Jimmy. Je ne suis qu'un protestant de base, qui parfois rejette en bloc tout ce qu'on lui a inculqué. Mais je ne pense pas me tromper sur vous. Tout ce que je ressens, c'est que vous vivez les Écritures, à force d'y être immergé à plein temps. Ces crises de désespoir terribles de Jésus dans les évangiles, vous les reprenez à votre compte. Et même cette histoire d'Antéchrist, c'est ça, être tenté par le diable, non ? Être tenté de croire que le mal est toujours caché derrière le bien. C'est ça, le péché originel.
Merci, murmura Jimmy en souriant dans ses larmes. Merci d'avoir l'air aussi paumé que moi. À votre service. Irwin avança la main sur son genou. Jimmy la prit, et ils restèrent un moment immobiles à dériver, se réconfortant par leur détresse mutuelle. « Mais c'est un contresens, » reprit doucement Jimmy.
« Quoi donc ? Le péché originel, c'est une faute de saint Augustin. En traduisant l'épître aux Romains, il s'est trompé dans les pronoms. Il n'a pas vu que le relatif renvoyé à la mort, qui est un nom masculin en grec, et non au péché, qui est féminin. Dans le texte original de saint Paul, c'est la mort qui devient héréditaire à cause du péché d'Adam, pas le péché lui-même. Quand on lui a mis le doigt sur sa bourde, Augustin était vieux. Il avait fini sa théologie qui y faisait déjà autorité. Il a dit « Tant pis, il n'allait pas tout recommencer pour une coquille. » Il s'est contenté d'un post-scriptum. Les nouveau-nés, qui n'ont pas eu le temps de commettre d'autres péchés que l'originel, iront dans un enfer spécial beaucoup plus soft. Et voilà comment la chrétienté continue de vivre sur l'idée que la damnation éternelle se transmet par héritage. Heureusement que vous êtes là. Jimmy haussa les épaules. Irwin non plus n'était pas dupe. Monseigneur Givens, en lui truffant l'esprit de ses propres interprétations, ne songeait qu'à réintroduire au Vatican sa théologie de saint Paul. Le coach comptait sur lui pour démontrer sa théorie de la pensée modifiant la matière. Le nutritionniste le considérait comme une vitrine célébrant les bienfaits de son régime. Le général et le linguiste le transformaient insidieusement en agent double. Buddy Kupperman voyait en lui le héros d'un futur livre culte. Et le président Nelcott voulait faire entendre par sa bouche la voix de l'Amérique. Quant à Irwin, il espérait avant tout que ses confrères du monde entier seraient dopés dans leurs recherches et leurs motivations par l'existence révélée d'un clone adulte sans la moindre déficience. Comme toujours dans la vie, chacun poursuivait son but personnel au travers d'un enjeu qui n'était qu'un prétexte. « Je peux ?» demanda Jimmy en montant les mains. Irwin se pencha en avant. Quand les paumes se posèrent sur ses tempes, il ressentit une impression de froid, un fourmillement de plus en plus glacé. Il ferma les yeux. Aussitôt, une escouade d'esquimaux miniatures descendit en rappel le long de ses cheveux, s'engouffra dans son conduit auditif et attaqua les replis du cortex à coups de piolet. La vision était colorée, contrastée, rigolote. Un souvenir de cartoon qui s'était présenté spontanément pour traduire les sensations, pour aider le travail. Irwin laissait faire, et une légèreté de givre apaisait les tensions dans son crâne. À présent, le commando polaire rabotait la tumeur qui se pelait à vue d'œil comme une orange en bois. Les épluchures se tordaient en copeaux enroulés sur eux-mêmes. Bientôt, il n'y eut plus qu'un tas de sciures que les nains inuits balayaient en sifflotant « La vie qui va », une chanson décapante que sa femme avait choisie pour leur mariage et pour ses funérailles. Il revint à lui quand les mains de Jimmy le saisirent aux épaules pour l'empêcher de tomber. Il se redressa, cligna des yeux. Il allait bien, divinement bien. La gorge un peu sèche, mais c'était normal avec la sciure. Il sourit. Ses années de médecine lui avaient prouvé la réalité de l'effet placebo. Il décida qu'il était guéri. Jimmy s'essuya le front avec sa manche de tunique. Irwin vit qu'il était en nage. La température était déjà froide pour la saison, mais il transpirait comme au soleil de Palestine. « Costaud, votre migraine, » commenta-t-il en reprenant son souffle. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû vous demander ça, mais je me sens mieux là, vraiment mieux. » Jimmy plongea ses mains dans le lac, les agita, se rinça le visage. « Il faut que je rentre. » « Oui, bien sûr !» s'empressa Irwin, qui sentait une énergie terrible irradier dans son crâne. « Reposez-vous, je vais pagayer !»« Non, ça va, ne vous dérangez pas, je rentre à pied. » Sans avoir le temps de réagir, il vit Jimmy se lever comme un somnambule au milieu de la pirogue et s'élancer d'un pas confiant sur l'eau sombre. Tétanisé, il regarda le corps s'enfoncer tout droit, la tête refaire surface dans un grand éclat de rire. « Vous y avez cru ?» Irwin baissa les yeux, mortifié. D'autant plus honteux que sa première réaction, en voyant Jimmy couler, avait été la déception.